Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'ai pu constater depuis quelques instants que la sono est catastrophique. Enfin, ça résonne, c'est une construction en béton. Ça demande beaucoup d'attention pour écouter. C'est à peu près clair malgré tout. Ça va, bon. Mais vous avez l'habitude au bout d'une semaine. Bon, grande joie de vous retrouver. J'ai appris que donc Paray se délocalisait au Portel. Je suis très content. Je connaissais l'équipe de basket de National 2 du Portel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très important. J'étais venu ici pour appeler un diacre, un homme au diaconat, mais je ne savais pas que nous avions Paray-sur-Mer. En tous les cas, vraiment grande joie. Vous êtes dans un diocèse que sans doute beaucoup connaissent mieux que moi, puisque j'y suis seulement depuis le 25 octobre, et que j'ai eu la joie de rentrer dans le ministère épiscopal ici, avec le deuxième confinement qui a été décidé 3 jours après. Bon, mais petit à petit, malgré tout, je sillonne, je rencontre des personnes, et grande joie d'être avec vous. Alors, on m'a demandé... Je connais un petit peu la communauté de l'Emmanuel, non pas que j'y ai participé ou fait des sessions avec eux, mais j'ai été pendant 10 ans vicaire général du diocèse de Versailles et j'avais accueilli la première communauté Emmanuel qui est venue dans le diocèse de Versailles. Et j'ai travaillé à son installation avec le père Fabrice Vuaïs, avec le père Didier, dont j'ai dit son nom, enfin quelques autres. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent Landette à plusieurs reprises. Je rappelais à René, je crois, votre prénom. Un des derniers échanges que j'ai eu avec Laurent Landette, j'ai dit « Vous n'êtes pas missionnaire. » Je m'excuse de vous provoquer, il paraît que je dois vous envoyer en mission. Ça, je n'avais pas prévu de vous le dire. Parce que je leur demandais de venir dans le diocèse d'Amiens et ils m'expliquaient qu'ils venaient que dans les diocèses où il y avait déjà du monde. Je dis, moi, il y avait 5 personnes de l'Emmanuel dans tout le diocèse d'Amiens, donc je savais qu'ils n'auraient jamais. Alors, je comprends la logique. Ils veulent, pour la mission, ils veulent qu'il y ait quelques familles. C'était une boutade, mais pas que. Et je suis très heureux que je sois dans le diocèse de Versailles, qui pour 50 000 habitants de moins, a 150 prêtres de plus de moins de 75 ans que le diocèse d'Arras. Puisque nous n'en avons que 60, alors que nous avons 50 000 habitants de plus que les Yvelines. Bon, dans 10 ans, les Yvelines auront 100 000 habitants et nous 20 000 habitants de moins, sans doute, on vieillit. Mais voilà, c'est des chiffres, quoi, la mission. Alors, c'est pas des chiffres, c'est l'action de l'Esprit Saint. On m'a demandé donc d'intervenir sur, au moment de, je crois, ces derniers jours de votre session, ou pour vous envoyer en mission, sur le thème « Petit pour porter Jésus au monde ». Alors, je vais plutôt intervenir, mais c'est pas très loin, enfin, je pense que c'est pas très loin, j'espère répondre un peu à la demande. Sur l'évangélisation, un ministère de pauvreté. L'évangélisation comme ministère de pauvreté. Et j'ai en tout 9 points. Alors, écoutez, on s'arrête pas quoi qu'il arrive en 11 heures, que j'ai fait les 9 points ou pas, on verra. Ils sont d'inégale longueur, mais avec moi, je sais toujours quand je commence, je sais jamais trop quand je termine. Premier point, l'évangélisation comme ministère de pauvreté, ça m'est venu juste avant, là, juste en arrivant ici, j'avais un peu préparé avant, mais j'ai mis un point zéro qui est le premier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous avons cette grâce inouïe de croire. C'est le cadeau que le Seigneur m'a fait par l'Église. Nos prédécesseurs, ceux qui avaient les manettes dans les années 70-80, ont été confrontés à des questions compliquées. 68 est passé par là, ça a été la première grille de lecture du Concile Vatican II et pas forcément la meilleure. Je vous en supplie, ayez toujours infiniment de respect pour nos vieux prêtres. Ils ont peut-être été de beaucoup de combats idéologiques, ils m'ont transmis le Christ. Ils m'ont donné la vie. Je l'ai pas reçu de moi-même, bien sûr, moi personnellement je suis d'une famille chrétienne, mais c'est par l'Église que j'ai reçu le Christ, et d'ailleurs je pourrais dater d'un événement, 1er novembre 1979, j'avais pas tout à fait 16 ans, dans une liturgie qu'aujourd'hui je ne ferai plus jamais comme ça, parce qu'elle était vraiment rock'n'roll, et un peu farfelue. Mais j'ai fait l'expérience du Christ réellement présent dans l'Eucharistie. C'est l'Église qui m'a donné Jésus. Et donc l'évangélisateur est un pauvre parce qu'il sait qu'il n'a que ce qu'il a reçu. Quand j'ai eu l'occasion de faire toute une retraite sur ce thème, qu'as-tu que tu l'aies reçu ? Je ne trouve rien dans ma vie que je n'ai reçu. Rien. Je suis passé à côté de dons, j'ai dilapidé d'autres dons, j'ai eu des combats, mais je n'ai rien que je n'ai reçu. Même ma liberté, ma capacité de rebond au cœur de l'épreuve, j'ai eu une épreuve un peu majeure dans mon ministère, ça ne vient pas de moi, c'est la grâce du Christ. Alors peut-être qu'il y a mon oui, bien sûr. Mais celui qui évangélise est un pauvre parce qu'il sait qu'il n'a rien, qu'il n'ait reçu, et il n'a aucune supériorité sur les autres, il a simplement une grâce supplémentaire, qui est la grâce des grâces de connaître le vivant, qui est la vie, qui est Jésus-Christ ressuscité. C'est un premier point, mais je crois que c'est important parce que on peut biaiser beaucoup de choses en se trompant sur le point de départ. Et plus je suis pauvre, plus je m'ouvre au don, plus j'accepte de ne pas être propriétaire, moins je m'accapare les choses, moins je les vis comme une prérogative ou un privilège, mais comme un don inouï fait à un pauvre type ou une pauvre femme, plus en fait ce don va me traverser peut-être pour aller vers les autres. En tous les cas, c'était le premier point. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Deuxième point, l'évangélisation est un ministère de pauvreté parce que nous ne sommes pas à la hauteur de celui que nous annonçons, et je trouve que c'est l'une des épreuves la plus grande de celui qui annonce le Christ. Celui que nous annonçons, celui qui nous a saisis, celui dont nous avons une expérience, est infiniment plus grand que ce que nous en percevons. D'une part, je reviendrai, mais personnellement, je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur. Et plus j'avance, plus l'évêque que je suis a souvent l'impression d'être un imposteur. Il prêche la parole, il annonce, il donne des orientations, il essaye de réconcilier les frères qui se battent, et lui-même est confronté au péché, je ne vous dirai pas lequel, et lui-même vit des combats spirituels dans lesquels je suis le spécialiste dans le combat spirituel pour organiser ma propre défaite, au lieu de m'abandonner vraiment au Seigneur. Et donc, l'annonce de l'Évangile est évidemment un ministère de pauvreté. Nous ne sommes pas à la hauteur de celui que nous annonçons. Il y a le combat spirituel, bien sûr, mais je crois qu'il y a aussi là, finalement, c'est l'une des croix de l'apôtre, mais à laquelle il faut qu'il consente. Il a entendu cet appel du Christ, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chassez les démons, guérissez les malades. » On commande jamais ce verset-là. Je ne sais pas le commenter, mais je constate que le dernier, on a beaucoup commenté, « De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, mais chassez les démons, guérissez les malades. » Mais ça, ce serait une autre session. Mais il entend, et donc il y va. Et en même temps, immédiatement, il se trouve écartelé. Parce que plus il annonce celui qui le fait vivre, plus il découvre cet amour fou, plus il voit bien qu'il n'en est pas à la hauteur. Et ce n'est pas du tout le lieu de désespoir, parce que ça va être le lieu encore de l'accueil de la grâce. Néanmoins, c'est capital d'accepter de se tenir à cette croisée-là et de vivre cette croix-là. C'était le deuxième point pour évoquer le ministère d'évangélisation comme un ministère de pauvreté. Troisième point, si le ministère d'évangélisation, et si nous sommes trop petits pour porter Jésus au monde, même s'il nous faut le faire, pour porter Jésus au monde, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de R à Jésus, je crois. Je sens que vous... C'est bon ? On ne voit pas les visages avec les masques, même si on reconnaît certaines personnes quand même. Qui viennent du diocèse d'Amiens, si je ne me trompe. J'ai été 6 ans et demi évêque à Amiens. Oui, pardon. Donc, celui que que nous annonçons nous déborde tout à fait. Tout à fait. Nous savons qu'il est radicalement au-delà de ce que nous disons, de ce que nous percevons, de ce que nous expérimentons. J'aime beaucoup le mot mystère, pour autant qu'on le comprenne bien. Le mystère, ce n'est pas l'énigme. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne comprendrai jamais, c'est ce que j'aurai jamais fini de comprendre. Et nous savons que l'expérience que nous avons de Dieu, d'une part, nous n'aurons jamais fini de la découvrir, et d'autre part, elle est infinie par rapport à ce que Dieu est, infiniment petite. Quand je dis que nous n'aurons jamais fini de la comprendre, moi je me suis converti le 1er novembre 79 à 11h à la frappe de Soigny. Je me suis converti, pardon, le 1er novembre 79. J'avais pas tout à fait 16 ans, vous pouvez faire le compte. Dans l'Eucharistie, voilà, j'ai tout mon être, je pense que c'est l'expérience mystique de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je communie dans la main, parce que le prêtre a dit on va attendre que tout le monde ait l'hostie dans la main avant de communier. Bon, très bien. Moi je dis surtout tu fais comme tout le monde. J'étais le premier à la recevoir, l'hostie, et j'ai regardé ce que j'avais dans les mains. Les chrétiens disent que c'est le corps du Christ. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais est-ce que vous y avez réfléchi un jour? Enfin, c'est du pain sans levain, ça a le goût de carton-pâte. Et je me suis dit, voilà, je me dis ça. Et à un moment, je me dis, mais si c'était vrai, et tout mon être, d'une manière que je ne vais pas expliquer, tout mon être y compris. Et c'est pour ça que je dis, je pense que c'est la seule expérience mystique de ma vie, mais c'est l'expérience la plus vraie que j'ai jamais faite. Depuis, je n'ai plus rien senti, en tous les cas pas du tout cet ordre-là. Tout mon être, y compris mes os, y compris mes muscles, y compris, et il y en a, il y a de la barbaque hein, sur le borne moyen, mon cocosso dans la famille. Tout mon être a dit, c'est vrai. Et sur ce c'est vrai, ma vie a basculé. Je ne comprends pas encore ce que j'ai vécu. Ça fait bientôt 42 ans. Je pensais avoir compris ce que j'ai vécu et je comprends que ce que j'ai vécu ce jour-là est infiniment plus grand que ce que j'en perçois aujourd'hui et que j'aurais jamais fini de découvrir. Celui que nous annonçons, l'expérience que nous en avons, en fait, nous déborde radicalement. Et ça demande une profonde humilité. Nous ne sommes propriétaires de rien. C'est tellement trop grand. Vous savez que l'Église n'est pas propriétaire de la vérité qu'est Jésus. D'abord, la vérité, c'est quelqu'un. C'est pas un système, c'est pas une doctrine. Mais qu'elle l'a en dépôt. C'est une expression de saint Paul dans la lettre à Timothée. La deuxième lettre à Timothée, je l'ai vérifiée ce matin, au chapitre 1, versets 12 et 14. L'Église a la vérité en dépôt. Alors, elle est le dépôt de la vérité. Et seule l'Église l'a, ça je le crois profondément. Mais elle l'a en dépôt, elle n'en est pas propriétaire. Et ce qui est déposé en elle est bien au-delà de ce que tous nous pouvons dire personnellement ou même ensemble. Vous savez, j'aime beaucoup cette définition du dogme. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les dogmes, moi j'aime beaucoup les dogmes. Je ne crois pas être dogmatique au sens péjoratif du terme. Le professeur Joseph Ratzinger, qui est devenu après le pape Benoît XVI, mais quand il était professeur à Tübingen, définissait le dogme ainsi. Le dogme est une porte ouverte sur le mystère. C'est très très beau. Le dogme est une porte ouverte sur le mystère. Et ce qui est dogmatique dans la foi catholique, ce n'est pas les mots utilisés pour désigner la réalité dogmatique, c'est la réalité visée. Une formule en tant que telle n'est pas forcément telle qu'elle pour l'éternité. Les mots évoluent, le sens des choses évolue. Mais la réalité visée est dogmatique. Ce que nous avons à vivre, et, enfin, le dogme, vous voyez, c'est cette porte ouverte sur le mystère. L'Église l'a en dépôt, ça c'est capital. Mais ça nous excède. Ça nous excède toujours. L'amour de Dieu est toujours au-delà. Plus j'en fais l'expérience, objectivement, plus je me rends compte que ce que j'en connais est ridicule par rapport à ce que c'est. Et que dans le royaume, ça sera l'éternel émerveillement, l'éternelle fête, l'éternel jaillissement devant l'éternelle nouveauté, de l'éternel amour dont nous n'avons pas un millième d'idée. Je crois que c'est important parce que l'évangélisateur n'est pas là pour que l'autre vive sa propre expérience, comprenne Dieu comme lui l'a compris, ou perçoive de Dieu ce que lui perçoit de Dieu. S'il passe par sa propre expérience pour dire comment Dieu l'a rejoint, il y a un moment, je crois que c'est important de pouvoir parler de son expérience, l'évangélisateur n'est pas là pour témoigner de sa foi, mais témoigner de la foi de l'Église. Et ça, c'est capital. Il y a parfois, dans certains modes de témoignage, une surcharge affective qui fait que le témoin se met au centre et pas celui dont il témoigne. Et ça demande une grande chasteté intérieure. Ça demande d'avoir habité, d'avoir travaillé, habité son témoignage, de pouvoir en dire quelques mots, et en même temps de l'avoir suffisamment travaillé pour savoir en être dépossédé au moment même où je le dis, sachant, vous connaissez sans doute le proverbe, qu'il n'y a pas plus grand idiot que celui qui, quand on lui désigne la lune, regarde le doigt. C'est une de mes grandes inquiétudes comme évêque. J'ai un certain tempérament, une certaine personnalité, pas tout à fait transparente. J'ai une manière, par exemple, de célébrer. Je me dis, c'est à l'écho à Jésus, c'est à l'écran à Jésus. Je suis un passionné. Vous m'avez souvent vu dans la cathédrale d'Amiens prêcher, pas à Langon, mais avec un micro, et puis balader. J'ai arrêté à Arras. Parce que je me dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je te donne un spectacle. C'est le Christ qu'il doit avoir. Alors, le Seigneur m'a donné la passion pour servir l'amour de l'Évangile, gloire à Dieu. Il m'a donné l'énergie, je ne vais pas essayer de l'éteindre. Mais, voyez ce que je veux dire. Moi, quand j'entends, j'ai entendu un jour un jeune me dire, mais moi, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc je ne dois pas croire. Alors, je ne sais pas si c'était la signature de l'échec de mon témoignage, peut-être pas. Mais alors là, clignotant, c'est allumé, quoi. En tout cas, nous ne sommes pas... mystère de pauvreté, parce que ce que nous disons nous excède et nous sommes témoins de la foi de l'Église. Pour moi, c'est capital. Seule la foi de l'Église, je vous dis que me garantit de l'idolâtrie. Là, ce n'est pas une idole. Si vous réduisez Dieu à ce que vous en connaissez, à ce que vous en percevez, à ce que vous en expérimentez, vous faites de Dieu une idole. Vous le réduisez, vous lui mettez la main dessus. C'est pas une idole. C'est quand l'absolu est enfermé. Seule l'Église me garantit l'ouverture sur tout Dieu. Alors encore une fois, ça passe par vos personnalités. Quand j'ai voulu être prêtre, je suis allé voir Dieu. J'avais un curé de paroisse que j'aimais beaucoup. Enfin, il est devenu un ami après que mon père et lui se sont engueulés comme des poissons pourris. Mais mes papas, il a tout ce qu'il avait à dire, puis en même temps, il aimait les gens. Et c'était un ancien ouvrier, un ancien tourneur fraiseur qui était devenu prêtre, qui était dans notre petite paroisse en région parisienne. Notre petite paroisse ici, ce serait déjà un gros bourg, mais à l'époque, là, c'était... et qui était là parce qu'il y avait des problèmes. Mais c'était un homme. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il s'appelait Maurice le Jeune, et je lui dis que je voulais être prêtre, parce que c'était pour lui une très grande joie. Et Maurice me dit un jour, tu sais, vous pendant 30 ans, je me suis dit, Maurice, t'annonces pas Maurice, t'annonces Jésus. Maurice, t'annonces pas Maurice, t'annonces Jésus. Maurice, t'annonces pas Maurice, t'annonces Jésus. Puis il m'a fallu 30 ans pour me dire, mon enfin Seigneur, si t'as appelé Maurice, c'est peut-être aussi pour te dire par Maurice. Mais il a fallu sans doute 30 ans pour dire, il a fallu qu'il commence par 30 ans pour dire, t'annonces pas Maurice, t'annonces Jésus, pour que l'annonce par Maurice soit juste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est pour moi un capital, et je vous en supplie, hein, nous n'annonçons pas une idole. Bonjour, c'est tous les cerveaux d'hôtel, paraît-il, de la paroisse dans laquelle nous sommes. Waouh. Et il avait fait des résumés, voyant, et curé. Et donc, voilà, ministère de pauvreté, parce que ce que nous annonçons est plus grand que nous, et en fait, nous annonçons la foi de l'Église. Moi, je dis souvent au baptême et au mariage, je ne vais pas célébrer ce baptême, ce mariage dans votre foi. Alors ça les inquiète un peu les gens parce qu'ils se disent qu'il va me juger. On ne peut jamais juger de la foi de quelqu'un. Faites très attention. Je me souviendrai toujours de cette préparation au baptême avec des gens qui n'avaient pas foutu l'église, les pieds à l'église depuis 15 ans. Et quand on fait un petit tour de table et un père de famille dit « Ah non, mais c'est très clair. Moi, si je baptise Géraldine, c'est parce que j'aime Jésus. » C'est pas tous les soirs qu'on a ça dans une réunion de baptême de paroisse. Et ce gars n'avait pas foutu les pieds dans l'église depuis 15 ans. Alors, il y avait quelque chose dans son amour de Jésus qui était encore... Mais qui puisse dire ça, oui, je me sens tout petit. Et je me dis, bah, comment on peut marcher ensemble pour faire un pas de plus, mais... Donc je ne juge pas la foi des gens, mais je leur dis toujours, moi je ne vous baptise pas dans ma foi. Je ne vous marie pas dans ma foi. Je ne veux pas vous annoncer Dieu tel que je perçois. C'est tellement court que vous, c'est tellement cher qualité de moi. Moi je suis un tout petit joueur. Moi je veux tout Dieu. Je veux tout. Je veux pas Dieu tel que je perçois, tel que je ressens, tel que je l'expérimente. Je veux Dieu tel que l'Église seule me garantit et la porte vers lui. Et c'est pour ça que j'aime toutes les célébrations sacramentelles du compagnon de mariage pour redire la foi de l'Église. Pas pour vérifier que les gens, ils ont les bons tampons, vous voyez. Moi je suis comme Thérèse, hein. Je dis Dieu, moi je veux tout. Hein. Moi je veux tout. Je veux tout Dieu. Et je sais que de moi-même, je ne peux pas dire tout Dieu, seul l'Église. Alors en tous les cas, c'était un point sur lequel je voulais insister un peu. Nous annonçons. C'est le troisième point, l'évangélisation comme mystère de pauvreté, parce que nous annonçons celui qui nous déborde. Et vous comprenez que c'est un lent travail pour nous aussi, à la fois de formation, je vais y revenir, mais de liberté intérieure, hein, parce que nous ne voulons annoncer que lui. Mais quand on me dit que je suis évêque, et parfois j'ai un peu envie de m'annoncer. Alors quand ça va bien, je vois, hein, ça va bien. Vous savez, être évêque, c'est pas facile. Hein, je dis franchement. Les cas. Mais le Seigneur est bon, il est ma choix depuis bientôt 42 ans, donc il ne s'arrête pas. Donc quand vous pouvez m'encourager, votre avis, je dis pas. Mais quand ça va pas, vous dites ça va pas, quoi. Moi, la correction fraternelle, j'y crois plus que tout. Et dans mes ministères précédents, aussi bien vicaire général, curé de paroisse, au milieu de jeunes que évêque à Amiens, il y a des gens consignés. Et qui ont eu la trouille de dire des choses, mais qui ont vu que chaque fois qu'ils m'ont dit des choses, c'est des gens pour lesquels j'ai une très grande estime, et on a monté après des projets ensemble. Quand je vous dis, en tous les cas, et parce qu'on peut toujours se laisser piéger par un jeu de séduction qui fait qu'on désigne la lune, mais on voudrait que les gens. On désigne le soleil, qui est le Seigneur, mais on voudrait que les gens s'arrêtent à nous, en fait. Et ça, c'est toujours un risque dans le témoignage. Et dans l'évangélisation. Quatrième point, l'évangélisation est un ministère de pauvreté parce que la liberté des personnes sur lesquelles nous n'avons pas autorité, sur lesquelles nous n'avons pas pouvoir, et c'est bien. Mais de l'oublier, ça a donné la question des abus et des emprises. De penser que je vais t'aider, toi qui n'es pas très mûr, à répondre à ta vocation un peu plus vite, au cas où tu serais tenté par des choses qui ne seraient pas cette vocation, ça a enfermé des gens sur des chemins, on n'a pas respecté la liberté des gens, et ça a donné des drames. Alors je parle là des vocations particulières, mais l'évangélisation est un ministère de pauvreté parce que c'est une rencontre de liberté à liberté. La nôtre est celle de celui à qui nous annonçons l'évangile, et surtout la liberté de Dieu, la liberté de celui auquel Dieu veut se manifester. Dieu se manifeste comme il veut, quand il veut, pas comme moi, il dit. Et la personne est libre. J'insiste beaucoup, je vois beaucoup de grands-parents, il y a quelques grands-parents parmi nous, qui culpabilisent. Mes enfants, pas mal à l'église, la fête de leurs enfants. Il y a quelque chose de l'ordre d'un mystère. Quand on relit l'histoire, on peut se dire, bah tiens, il y a peut-être tel truc qui a été manqué, mais. Mais ma mère me dit très souvent, tu sais, on a eu 50 ans, ils sont tous cathos, ma soeur, mes deux soeurs ont largué la foi, puis ils y sont venus à un moment, tous cathos engagés, alors elle est très bien. En termes de sensibilité. Mais sur mes 50, j'ai plus de 55 cousins et cousines, on est 5 nous, j'ai deux cousins catholiques pratiquants. Et ma grand-mère a une histoire d'évangile extraordinaire. Je ne m'en dis pas de ma grand-mère. Yes. c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a-t-il fait des choix pour opérer? Quel parent s'est pas planté? Enfin, moi, je ne connais pas les parents qui ne se sont pas plantés. Enfin, si vous en connaissez, vous me le montrez. Et même quand on ne se plante pas, on peut être angoissé. Hein. Souvenez-vous, Marie et Joseph, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Ça m'a toujours saisi, quoi. Mais donc, ce que je veux dire, je trouve qu'il y a des culpabilités indues. Est-ce qu'il y a la liberté des personnes? Souvenez-vous, Jésus est l'homme riche. Maître, que me faut-il faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. J'aime cette question. C'est pas la vie demain et ailleurs, même ça, elle sera en plénitude au-delà de la mort. C'est aujourd'hui, c'est une vie que la mort n'arrête pas, que la violence n'arrête pas, que mes propres contradictions n'empêchent pas. Ce mec, il en a ras-le-bol de survie, il voudrait vivre. Il voudrait vivre. Après. Je pense, vous savez, que les contemporains, je pense que la crise que nous vivons sape, pour une part, le fondement sur lequel notre société s'est construite depuis au moins 70 ans. Voir un peu plus. Je dis au moins l'après-guerre. C'est peut-être une certaine idéologie des Lumières qui est remise en cause. Nous pensions que le progrès allait tout résoudre. Certains philosophes nous avaient prétendu qu'il y avait une science politique qui allait amener la justice dans le monde. Elle avait 100 millions de morts au siècle dernier, l'idéologie marxiste-léniniste, alors, et quelques autres idéologies. De l'autre côté de l'échantillon, mais alors, entre le nazisme et puis le marxisme, on a eu des choses. Et puis, on a pensé jusqu'à très peu de temps que la science résoudrait tout. J'ai encore entendu, face aux perturbations climatiques, sur lesquelles je n'ai aucune compétence particulière, mais des gens me dire, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucune inquiétude, la science trouvera les solutions. Ben peut-être, mais toutes les études qu'on fait et ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, elles ne trouvent pas les solutions. Et puis, il y a un petit virus qui arrive et qui nous dit, ben, tu croyais que la science allait tout régler, elle ne réglera pas tout. Le problème technique ne réglera pas tout. La question est ailleurs. Donc on est dans une période qui, paradoxalement, me semble-t-il, va faire que les gens vont se poser d'autres questions. Je me demande s'il n'y a pas, paradoxalement, pas un moment favorable. Il ne faut pas en profiter pour dire, tu vois, j'avais raison. Mais il va falloir être à l'écho de ce monde qui est tellement déstabilisé. Vous savez, l'errance éthique du monde ne me paraît pas être un choix positif de la luxure, mais la manifestation d'un désespoir radical. Notre monde est désespéré. Et quand il n'y a plus de sens, vous pouvez faire n'importe quoi, parce que ça n'a pas de sens. Et je pense que vraiment là, la Covid et les problèmes environnementaux sont en train de saper, allez oui, 2 siècles de philosophie positiviste où on pensait qu'on allait tout résoudre. Bon, ceci dit, parenthèse, hein, mais c'est toujours à des hommes et des familles que nous adressons. Et donc, je pense que les gens ont cette question. Oui, j'ai fait cette parenthèse parce que je pense que nos contemporains, leur question, c'est la vie éternelle. C'est pas de savoir si j'assisterai après la mort, même si la mort angoisse beaucoup plus les gens qu'on le pense. Je vous demande qu'on parle de la mort. Si vous allez visiter des personnes âgées, est-ce que t'as pensé à ta mort? Mais oui! D'abord parce que vous libérez la parole. Peut-être que la personne n'en dira pas un mot. Vous serez indiscret. Mais peut-être que, ben justement. Et puis d'autre part, parce que nous, on a quand même une espérance à dire. Ma mère est morte subitement, elle avait 85 ans, ça fait partie de la vie cette année, en février. Mais ça faisait 4-5 ans, je disais, maman, alors, est-ce que tu penses à ta mort? Et elle ne m'a jamais rembarré. Elle me dit, ouais. Puis on a parlé du coup de l'espérance chrétienne, on a beaucoup échangé ensemble. Bon, je reviens à la question, oui. Je sais pas, il faut que j'arrête de faire des parenthèses parce que je sais pas ce que je veux dire. En tous les cas, oui, l'homme riche, la vie éternelle. La question de la mort se pose, mais, et donc la question de l'espérance après la mort, je crois qu'il va falloir que nous réinvestissions l'eschatologie, les fins dernières, ça je le crois beaucoup, mais il faut que nous retravaillons ça. Mais la question de la vie éternelle, c'est la question, est-ce qu'il est possible de vivre et pas seulement de survivre? Or, notre monde ne fait que survivre. Et nous savons qu'il est possible de vivre. Alors Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements. Oui, D'ailleurs, je l'ai vu depuis que je suis enfant. Alors ça, c'est extraordinaire. Qui parmi vous vit les 10 commandements depuis qu'il est enfant? Non, vous semblez dire que non. Moi non plus. Jésus a trouvé le seul type de toute l'histoire, hors sa mère, avec les conceptions, qui vit les 10 commandements. En tous les cas, il ne vit pas, tu t'ajouterais pas un peu là, tu les vis depuis que tu es enfant, on aurait pu, non, Jésus, pas du tout. Il dit, une seule chose seulement, va, rends tout tes biens, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Attention, le ciel, c'est pas l'ailleurs inaccessible. Le ciel, c'est le lieu de Dieu, et je pourrais vous le montrer par l'écriture, mais j'ai pas le temps, et qui réside d'abord au plus intime de vous-même. Vous ne pouvez, enfin voilà, c'est l'intime de l'intime, où Dieu se donne. Et puis, viens ici, moi. Marc nous dit, il le regarda et il l'aima. J'aime beaucoup ce moment-là. Je sais pas si ça vous arrive dans la prière. Jésus, tu me regardes toi-même, vas-y. Ah ouais. C'est pas très facile, hein, parce que d'abord, il peut y avoir un petit truc un peu narcissique, mais c'est pas du tout ça. Et puis d'autre part, parce que nous, on s'aime pas beaucoup. Et donc, arrête, Jésus. Non, toi, c'est pas possible. Tu te trompes. Si, je t'aime. Hein, allez. Mais, enfin, ça devait être quelque chose d'une expérience, ce seul homme riche. Et bien, ce gars, il est parti. Et bien, Jésus n'a pas essayé de le récupérer. Jésus n'a pas fait culpabilisé de pas y être parvenu. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur évangélisateur que Jésus. Je pose l'hypothèse. Et donc, voilà, mystère de liberté aussi. Il faut savoir relire nos expériences. Il faut savoir lire, ben là, on s'est planté. Moi, je rêve de groupe Weight Watchers de l'évangélisation. Enfin, je ne connais pas bien Weight Watchers, même si j'en aurais peut-être un peu besoin. Mais il paraît, oh, cette semaine, j'ai perdu 500 grammes. Bravo, surtout, lâche rien, on est avec toi. Cette semaine, j'ai repris 300 grammes. Écoute, tiens bon. Et c'est un peu comme ça, je crois qu'on s'encourage beaucoup dans les groupes Weight Watchers. Moi, je rêverais que toutes les semaines, on se retrouve. Hé, hey, j'ai pu parler de Jésus, c'est génial. Puis une autre fois, oh là là, Jésus. Premier obsèque que j'ai fait, moi, j'ai dit à mon. J'étais diable, j'ai dit au prêtre de ma paroisse quand j'étais en salle, plus jamais je ferai d'obsèque. Hein. J'ai essayé de vendre Jésus comme on vend une savonnette. C'est pas mon genre. Mais c'était une expérience radicale, parce que le Seigneur il m'a éduqué. Là. Et j'ai fait quelques obsèques derrière. Mais oui, je me suis complètement tenté, j'ai pas osé, j'ai parlé que de moi alors que je voulais parler de lui. Je rêve de ça. Mais on sera toujours confronté à la liberté des personnes. Nous offrons juste des mots pour que les gens puissent nommer ce qui leur arrive. C'est ça l'évangélisation, je vais relire. Nous offrons des mots pour que les gens puissent relire leur expérience. C'est en train de dire, oh là là. Nous proposons des démarches, mais dont l'efficacité ne nous appartient pas. Nous désirons simplement disposer au don de Dieu qui lui seul convertit. Vous connaissez cette phrase de Bernadette. J'étais curé de la paroisse de Bernadette dans les Yvelines. C'est l'une de mes grandes copines, Bernadette. Pour moi, c'est une femme extraordinaire. C'est le paradigme de la femme libre, Bernadette. C'est vraiment un sacré bout de femme. Et elle, vous connaissez cette phrase, hein, je ne suis pas chargé de vous le dire. Je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Elle est maîtresse en audace et en liberté. En confiance, en audace et en liberté, Bernadette. Voilà, c'est mon troisième point. Mon quatrième point, cinquième, pardon, mais oui, c'est parce que j'avais un zéro, donc je décale tout. Mon cinquième point, c'est une petite contestation du titre que vous m'avez proposé comme conférence. Porter Jésus. Pour porter Jésus au monde. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on porte Jésus au monde. Je m'explique. Alors, il ne faudrait pas durcir. Hein. En fait, c'est une nuance, parce que je crois aussi que notre. Enfin, Jésus a dit, allez, toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez, guérissez les malades, chassez les démons. Et donc, il y a une action très positive qui produit quelque chose. Attention, je n'ai jamais dit. Néanmoins, Jésus demande, priez pour les ouvriers. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En fait, la moisson est abondante. Elle a levé. C'est pas nous qui l'avons levé. Elle a levé. On cherche des moissonneurs. On cherche des révélateurs. On cherche des gens qui donnent à leurs contemporains des mots pour relire leur expérience. Des outils pour enlever le tas de fumier pour qu'ils puissent voir le travail de miséricorde et d'amour fou que déjà le Seigneur fait en eux, puisqu'ils ont été créés à l'image pour la ressemblance, puisque tout a été créé par lui et en lui. C'est le prologue de Jean, c'est saint Paul le dit à plusieurs reprises. Et parce que beaucoup encore en France sont baptisés, même s'ils sont moins. Et donc, s'ils sont baptisés, peut-être que l'Esprit Saint dort au fond, mais il est là. Il est là. Et donc, vous voyez, est-ce qu'on porte ? J'ai un très bon ami, le père Jean-Emmanuel Gousse, qui est curé dans le diocèse de Nanterre, on était au séminaire ensemble. Le Seigneur a beaucoup d'humour, hein, parce que la première fois que je suis arrivé au séminaire, nous étions 37 dans mon année, c'est-à-dire une année assez importante. Et j'ai deux souvenirs. Jean-Christophe, qui est un homme extraordinaire, mais on s'est présenté, mais qui ne savait pas ce qu'était le sacrement de réconciliation. Il dit, ça c'est bizarre, tu rentres au séminaire et tu ne sais pas ce que c'est que le sacrement de réconciliation. Bon, Jean-Christophe est aujourd'hui à la TD Carmonde, c'est un homme extraordinaire, vraiment. C'est... Et puis Jean-Emmanuel, je me souviens, il s'est présenté, je lui dis, mais comment est-ce qu'il peut y avoir des gens aussi puant que ça dans l'église. Le premier sentiment que le Seigneur a reconnu comme une crête, c'est mon meilleur ami. Bon, voilà. Je le dis parce que parfois ça m'énervait. Et lui, il a été pendant très très longtemps aumônier d'hôpitaux. Il a été même aumônier diocésain de la pastorale de la santé. Et quand il recevait les gens arrivaient avec une vraie générosité, on veut exprimer la compassion de Jésus aux malades, porter Jésus aux malades, notamment dans la communion. Puis on veut, peut-être si on peut, porter Jésus à ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une force pour vivre, et ils ont raison. Oui, c'est vrai. Mais j'étais malade, et vous m'avez visité. Ce que vous faites au plus petit d'entre nous, c'est un mot que vous faites. Les catholiques sont très réalistes. Ils sont aussi réalistes pour la présence réelle dans l'Eucharistie. Je vous dis, ce que vous faites au plus petit d'entre nous, c'est un mot que vous faites. Ben là, c'est pas un symbole, c'est une représentation, c'est pas une allégorie. L'expérience, vous le porterez d'autant mieux que vous saurez le reconnaître chez qui vous le visiterez. Et beaucoup après témoignaient d'expérience, ils avaient fait l'expérience de Christ qui venait à eux par les malades, tout en ayant amené aussi, eux, des paroles de réconfort, des paroles d'espérance, d'Eucharistie. Et il ne s'agit pas d'opposer, mais il y a quelque chose. Et je crois que c'est important, il y a un ministère de pauvreté radicale. Je suis au service de quelque chose que je n'ai pas dans ma besace, dont j'ai une expérience, et qui m'a précédé dans le cœur de celui que je rencontre. Et c'est même pas moi. Mes mots, mes attitudes vont peut-être aider, mes propositions, mais c'est pas moi qui fais le boulot. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, et que ça peut induire une attitude spirituelle. Je crois que la communauté de l'Emmanuel est très attachée à l'adoration. C'est très bien. Merci. Développez ça autant que vous le pouvez. Ayez beaucoup d'amour, d'intercession pour les curés qui vous disent que l'adoration c'est n'importe quoi. Ça arrive de moins en moins, mais ça a pu arriver à une époque. Hein. Aimez-les. Et demandez la grâce qu'ils découvrent. Mais ils sont aussi, eux, ils ont une expérience parfois d'excès d'adoration, c'est-à-dire d'une adoration qui est quasi païenne. Mon Jésus est là, je m'adore, mais je le garde à distance, je ne me laisse pas entraîner dans sa donation. J'étais vicaire général à Versailles, et un jour je suis convoqué, enfin l'évêque me demande d'aller visiter une paroisse pour réfléchir à l'adoration perpétuelle. Très bien. Faire un sanctuaire d'adoration perpétuelle à Versailles, très bien. Je pose deux questions. D'abord, est-ce que c'est perpétuel ? Oui. Toute l'année ? Oui. Juillet, août ? Ah ben non, juillet, août, bien sûr que non. On est en vacances. Ça y est, on est en vacances. La Trinité. Voilà. J'ai rien contre eux. Hein. Vous savez, le soir où je suis devenu évêque, moi je suis originaire de l'Éluron-Montagny, où je suis devenu prêtre, par contre, le Seigneur dit que c'est grand. Partout où tu veux, mais jamais à Versailles. Ça ne fait pas la vie à Versailles. 23 ans prêtre dans les églises, 17 ans à Versailles. Et c'était merveilleux. Mais bon, et je dis, ben, c'est pas perpétuel. Ah oui, mais vous comprenez, c'était quand même déjà pas très bien parti. C'est marrant comme on peut être, employer des mots qui ne sont pas justes. Ben, je dis, c'est pas perpétuel. C'est pas perpétuel. Donc, de toute façon, je suis en perpétuel. Et puis, je dis, je demande, mais en fait, les pauvres, pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait un oratoire, il y avait l'adoration, qu'on avait donné un col. Parce que les pauvres venaient dans l'adoration. Parce que, alors, ça faisait peur, j'entendais bien, mais aussi parce que les SDF venaient l'hiver, trouver de la chaleur, ils s'installaient devant le Saint-Sacrement, mais ils étaient complètement loin de penser ce qui. Enfin, loin d'avoir conscience de ce qu'il y avait. Et puis parfois, de fait, ben, ils s'oubliaient dans l'oratoire. Enfin, je comprends que c'était une vraie question. Mais là, on a beaucoup réfléchi ensemble en disant, mais celui que vous contemplez dans l'Eucharistie fait que vous devez pouvoir le reconnaître dans le SDF. Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que si l'adoration est authentique, vous ne pouvez pas traiter la question des SDF qui vous ennuie seulement par un code pour les sous dehors. C'est pas possible. Soyez les champions de la qualité. Et le curé a bien quitté cette dynamique. Je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, mais... En tous les cas, je vous invite vraiment à continuer ce ministère d'adoration plus que tout, parce que plus vous reconnaîtrez Jésus ressuscité dans le Saint-Sacrement, cette humilité de Dieu incroyable, plus vous saurez le reconnaître dans ce auquel vous annoncerez l'Évangile, et donc plus votre annonce sera un service de Dieu qui travaille le cœur de cette personne. Vous voyez ? Et encore 5 minutes, c'est ça ? Non, même pas 2 minutes. Eh bien, écoutez, mon sixième point, c'était, oui, j'avais plusieurs, mais je vais le dire rapidement. L'évangélisation est un ministère de pauvreté parce que Jésus nous l'a dit. Je vous signale que Jésus n'a jamais annoncé un succès mondain de l'évangélisation, jamais. Au contraire, il a promis les persécutions. Il dit dans les béatitudes, heureux ceux qui seront, Matthieu 5, c'est des choses qu'on connaît par cœur, vous me les citez, on les oublie. Heureux êtes-vous si l'on, quand vous insultera, quand on vous persécutera, on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, merci Jésus, car votre récompense sera grande dans les cieux, c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vous devanciez. Il ne s'agit pas de chercher le martyr, hein. L'Église n'a jamais reconnu martyr ceux qui ont cherché le martyr. Le martyr, c'est donné, quand c'est donné, ça ne nous appartient pas. Et on n'est pas maso, hein. On n'est pas maso. Mais Jésus n'a jamais promis le succès à mon mari. Luc chapitre 12, je ne suis pas venu pour. Luc chapitre 12, je vous le lis, parce que je vais encore même citer. Le verset 51. Pensez-vous que je suis venu pour rétablir la paix sur la terre? Non. Je vous dis bien, mais la division. Désormais, en effet, une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2, 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru, bon ça c'est plus habituel, et bru contre sa belle-mère. Non, ça c'est une étape. Alors, il ne faut pas faire de ces textes un absolu. Vous savez que l'écriture, ce n'est pas un texte sorti de son contexte. L'écriture, elle danse, elle appelle, elle s'éclaire. C'est un passage de l'écriture qui éclaire un passage de l'écriture. Néanmoins, nous ne pouvons pas ne pas entendre. Ministère de pauvreté qui appelle une formation, du coup. Ça, j'y tiens beaucoup. Tout cela nous déborde. Il s'agit néanmoins, dans ce qui nous déborde, d'annoncer la foi de l'Église, donc je vous demande de vous former. Se former parce que la foi, on la reçoit d'une tradition. C'est pas nous qui en sommes la source. Et c'est l'Église qui nous donne les mots pour comprendre ce que nous vivons. Donc formez-vous. Formez-vous parce que la raison, il faut que nous puissions attester devant les hommes, rendez compte de l'espérance qui est en vous, dit Saint-Pierre. Et la raison nourrit la foi qui elle-même éclaire la raison. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que la foi éclaire la raison. Mais la raison unit la foi. La foi du charbonnier, elle est très bonne pour le charbonnier. Qui parmi vous est charbonnier? Personne. Ok. Je vous demande de vous former aussi parce que il y a un primat de l'affectif dans notre société duquel, je me permets de le dire, certains communautés charismatiques ne sont pas tout à fait exempts. Moi, je me souviens, j'ai fait pas mal de choses avec la communauté charismatique et je leur vois beaucoup. Et je leur vois beaucoup, mais il y a un moment où on est tout proche de l'objet de la nuit. Je dis, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est plus ça, c'est fini. Ouais, c'est fini. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais bon, je vois des jeunes, des groupes de jeunes parfois, mais c'est normal, ils passent par là. Mais en tous les cas, la formation, voilà, c'est capital. Et puis, dernier point, je constate que tous les gens qui se forment, chacun avec ce qu'on est, hein, eh bien, ils font une expérience de liberté, c'est-à-dire qu'ils ne confondent plus l'accessoire et l'essentiel. Et en fait, si vraiment ils ont vécu une formation dans la grâce de l'Esprit-Saint, pas seulement un intellectualisme desséché, ça donne une espèce de liberté qui fait qu'on écoute beaucoup mieux, qu'on entend beaucoup mieux, qu'on ne confond pas des vessies pour des lanternes, et qu'on sait voir l'essentiel sans se laisser piéger par l'accessoire. Il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire, je m'arrête là-dessus. Alors, vous n'aurez pas les deux autres points que je voulais vous dire, je voulais juste vous inviter. Je terminerai par une considération sur l'humilité. L'humilité, regardez l'humilité de Dieu. Un très très bel article de Jean-Louis Chrétien, un philosophe qui porte bien son nom parce qu'il est chrétien, dans la revue Morale qui s'appelait Autrement, mais qui est des années 80-90, donc déjà ancienne, a eu un article merveilleux sur l'humilité. Je n'ai jamais rien lu d'aussi beau. Il explique que l'humilité est source de toutes les libertés et mère de toutes les audaces. Source de toutes les libertés. Le travail d'humilité, il me désencombre de moi-même. Quand je dis « je suis nul, je suis nul, je suis nul », en fait, je ne suis pas dans l'humilité parce que je ne suis pas au centre dans le génial, mais je suis au centre dans le mal. Et je suis toujours au centre. En fait, il y a une culpabilité pathologique qui est un orgueil inversé. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. En fait, j'ai toujours au centre. L'humilité, disait Jean Laplace, un jésuite, c'est de le regarder lui, désencombré de soi-même. Oui, je fais le point devant moi, je me dépose devant le Seigneur, je vais me confesser régulièrement, j'essaye de me convertir, je sais relire ma vie, j'ai une fraternité qui m'aide, mais j'arrête d'être obsédé par moi-même pour savoir si c'est bien ou pas bien ce que je fais. C'est un long travail. Moi, je ne suis pas sûr d'y être tout à fait arrivé. Mais désencombré de moi-même, mère de toutes les libertés, alors l'humilité devient source de toutes les audaces. Seigneur, je suis un pauvre pour l'évangélisation, évidemment. Viens dans mes pauvretés. Viens dans mes pauvretés. La personne humble sait que d'elle-même, elle ne peut rien, et tout d'un coup, dans la vérité d'elle-même, elle se rend disponible à la puissance d'un autre qui va la traverser. On peut penser à Mère Teresa, on peut penser à des gens comme elle, mais il y en aurait tant d'autres, peut-être vous. Mais si vraiment je suis désencombré de moi-même, enfin se trouve en moi l'espace pour que la puissance du ressuscité agisse. Et l'humilité, en fait, n'est pas du tout chez les chrétiens à la limite de la médiocrité et de la démission. C'est l'audace extraordinaire du Christ et de la mission. Lui, qui n'avait pas connu le péché, je terminerai par ce verset, 2 Corinthiens chapitre vous trouverez. Chapitre 5 ou chapitre 9 Non, pardon. De riche qu'il était, c'est bien le de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. En parlant de Jésus. Je crois que c'est 2 Corinthiens, ça c'est sûr. 5 ou 9 Pardon ? Non, c'est 2 Corinthiens, je vous assure. Je vais retrouver. Alors, Philippiens 2, lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. Apprenez la parole par cœur. Par le cœur, disait mon premier évêque. Par cœur, c'est par le cœur.
2 Corinthiens 8, 9.
2 Corinthiens 8, 9, merveille de la technique internet. Voilà. 2 Corinthiens 8, 9. Lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. Pendant très longtemps, je me dis, mais comment quelqu'un pourrait dire nous enrichir de sa pauvreté? Vous avez déjà, parce qu'on lit l'écriture, on dit c'est beau, mais vous avez. Ça veut dire quoi? Et puis il n'y a pas très longtemps, je me dis, qu'est-ce que c'est? Le pauvre, heureux les pauvres de cœur, Jésus parle de lui, hein. C'est celui qui sait qu'il n'a pas en lui sa propre origine, sa propre fin, qu'il n'est pas sa propre source, ni son propre dynamisme. Et le Fils éternel du Père n'existe qu'en se recevant éternellement du Père. Et ce qu'il reçoit du Père, qu'as-tu que tu n'aies reçu, il n'en fait pas une propriété, il ne se l'accapare pas, il ne sait en faire qu'une chose, le retourner au Père en le partageant aux hommes, c'est la grâce de l'Esprit Saint. En fait, le Christ nous enrichit de sa relation au Père. En fait, il nous enrichit de sa pauvreté, c'est de sa disponibilité au Père. Les cieux, il a, les cieux par le Christ, le rideau, et les cieux sont déchirés, comme dit Isaïe, et par le Christ, dans la pauvreté trinitaire du Fils éternel du Père, eh bien, nous est donnée la puissance même du Père, la plénitude de la vie, et donc l'audace de la résurrection.